les nuits de France Culture. Les nuits de France Culture, une mémoire radiophonique.
Nous sommes le 12 septembre 1940. La scène se passe dans un coin de forêt, près du village de Montignac, dans le Périgord noir. Quatre adolescents veulent en découdre avec d'autres et cherchent un passage secret vers un vieux manoir abandonné. C'est comme ça, par hasard, qu'ils découvrent une grotte à l'abri des regards. Ces quatre garçons furent les premiers à poser leurs yeux sur les dessins que d'autres hommes, quelque 17 000 ans plus tôt, avaient peints sur les murs de cet endroit, que bientôt on appellera la grotte de Lascaux. L'histoire de cette découverte est presque aussi célèbre que la grotte elle-même, presque aussi belle aussi. Parce que c'était des enfants, parce qu'ils jouaient, parce que c'était la guerre, parce qu'ils n'ont d'abord rien dit, voulant garder leur trouvaille pour eux, et peut-être aussi parce que l'un d'entre eux en est devenu le gardien. Celui-là s'appelait Jacques Marsal. En 1980, il racontait ses souvenirs à Jean-Claude Bringuet pour trois volets de l'émission « Nous tous, chacun ». L'histoire de la découverte, bien sûr, mais aussi le chemin par lequel il a été conduit à dédier sa vie à cet endroit. « Nous tous, chacun », Jacques, guide et gardien des grottes de Lascaux, trois émissions diffusées les 29, 30 septembre et 1er octobre 1980.
Nous tous, chacun, par Jean-Claude Bringuet.
Vous avez 15 ans, vous découvrez par hasard en compagnie de deux ou trois amis un trésor fabuleux. Qu'est-ce que vous faites? Réponse, vous le cachez aux yeux de tous. Et s'il est découvert malgré tout, eh bien vous essayez de le défendre, de le protéger, de le sauver si besoin est. Et cela, voyez-vous, peut vous prendre toute la vie. Oui, nous allons raconter une histoire. Une fois n'est pas coutume. L'histoire de ce garçon de 15 ans dont nous parlions. Il s'appelle Jacques et en effet, il a découvert un trésor. Cela se passait dans les bois du Périgord, un jour d'automne, il y a juste 40 ans. Le trésor était dans une grotte, comme il se doit, sous terre évidemment, mais il n'était pas constitué de louis d'or ni de bijoux. C'était un trésor purement artistique. Des peintures magnifiques ornaient toutes les salles, faites par des hommes qui vivaient là, il y a 15 000 ans. L'endroit s'appelle Lascaux. Il est devenu un des lieux les plus célèbres de la préhistoire.
Nous étions venus dans le bois de Lascaux, car c'était le bois que l'on fréquentait le plus, à cause de tous nos jeux de jeunes garçons, on jouait à la petite guerre, on jouait au Tarzan, on jouait...
Ah oui, c'était la grande époque.
C'était la grande époque, on jouait...
De Tarzan.
À construire sa maison dans les bois, à construire sa cabane. Donc le coin de Lascaux était notre coin privilégié, étant donné qu'il y avait un vieux manoir en plus, un vieux manoir abandonné où l'on allait jouer très fréquemment.
Qui appartenait au propriétaire.
Qui appartenait au propriétaire de la grotte, monsieur de la Rochefoucauld. Oui. Donc c'était un coin où on venait très souvent, tous nos jeudis et nos dimanches se passaient là.
Vous aviez des arcs et des flèches.
Oui, on se bagarrait, on faisait nos poignards nous-mêmes, on construisait des arcs et des flèches, on prenait dans la vallée en bas, dans les marécages, on prenait des roseaux dans lesquels on mettait un rayon de bicyclette au bout et on jouait à l'arc et aux flèches, à l'attaque du château, à la défense du château, enfin c'était nos jeux.
Vous avez même une cicatrice sur le poignet qui se souvient de ça.
Oui, une petite marque, en fait c'est pas très grave, écoutez... En fait, ça aurait pu être dangereux.
Une flèche adversaire.
C'est une flèche des adversaires.
C'était qui les adversaires?
Généralement, c'était les garçons les plus petits. On était les plus grands, on se mettait dans le manoir et on se faisait attaquer par les plus petits, mais ils étaient beaucoup plus nombreux aussi. Alors, ils avaient la force
du nombre,
si vous voulez. C'est ça. Mais alors, non, nous étions donc dans ce bois. Mais nous étions venus ce jour-là, pas tellement avec... On était venus d'abord avec une première idée. une première idée de souterrain et de trésor, parce que une vieille légende racontait qu'un souterrain partait de l'ancien château de Montignac, passait sous la Vézère, la rivière, et reliait le manoir de Lascaux. Et du manoir, la légende disait qu'un souterrain partait dans le bois, s'ouvrait dans le bois, avec un trésor et un veau d'or. Mais en réalité, il n'y a pas de souterrain. Bon, voilà. Mais nous, il y avait cette idée-là. Auquel aussi s'était greffée une autre chose importante, qui était, pour nous, importante à ce moment-là, c'est qu'il y avait des réfugiés alsaciens lorrains qui étaient hébergés aux fermes de Lascaux, en bas du manoir.
Nous étions en 40.
Nous étions en 1940, on avait été, après la débâcle, la défaite française, et tout ce qui avait un accent un peu différent du nôtre était un étranger, par le fait.
Et presque un ennemi.
Alors on avait été un peu, par l'intermédiaire du vieux manoir, provoqué un peu les réfugiés en leur lançant nos flèches et nos arcs, et nos flèches, et essayer de faire une petite guerre.
Quand vous dites « on », c'est qui ?
On, c'était les garçons qui étaient avec moi. C'est-à-dire que ce jour-là...
Il y avait un petit groupe, là.
Il y avait un petit groupe. Nous étions quatre. Nous étions trois, d'abord, au départ. Il y avait deux réfugiés de Paris. C'était la guerre, je vous l'ai déjà dit. C'était la guerre. Donc, il y avait deux réfugiés de Paris qui habitaient à Montignac. Un habitait juste en face de ma maison, Simon Coincas. Et l'autre habitait de l'autre côté du pont. Mais je le connaissais depuis longtemps, car sa grand-mère ou sa mère était originaire de Montignac.
C'est Georges.
Georges, voilà, c'était celui qui était originaire de Montignac.
Georges Agniel.
Et l'autre était Simon Coincas. On avait décidé donc d'attaquer les réfugiés lorrains.
Il n'y avait que, il n'y avait pas de...
Nous étions trois pour cette chose-là.
Et d'accord.
Alors on a...
Jacques, Simon, Georges.
Voilà, nous étions à ce moment-là, ces trois.
Même âge à peu près.
À peu près le même âge, oui, à un an près.
14-15 ans.
Moi j'avais 15 ans, Simon avait 15 ans et Agniel avait 16 ans. Voilà, à peu près. Alors, on avait été provoqués, donc, ces réfugiés. Le père n'avait pas été content, m'avait tiré les oreilles. Et on avait décidé de les attaquer le lendemain, mais avec un copain costaud. Et justement, il y avait un garçon que je connaissais, Marcel Ravida, qui avait 18 ans, qui lui travaillait dans un garage, mais qui était à l'assurance à ce moment-là. On a amené Ravida pour nous aider à attaquer les réfugiés. En étant revenu au manoir, on a provoqué nos réfugiés qui ne sont pas sortis. Et à ce moment-là, Ravida a dit « Je connais où se situe l'entrée du fameux souterrain où on risque de trouver le trésor. Ça, on pourra peut-être les prendre à revers de cette manière-là. » Vous voyez, il y avait le côté attaque et le côté trésor, les deux à la fois. Et on est parti dans le bois. Et on est arrivé tout à fait au faîte de la colline, à un petit trou que nous connaissions déjà.
C'était quelle heure de la journée ?
C'était environ 3 heures de l'après-midi à peu près. Si on partait à 1h30, donc c'est le temps de monter au manoir et arriver sur la colline de Lascaux, c'était à peu près 3h30 à peu près.
Vous n'étiez pas en classe ?
Il n'y avait pas d'école, c'était le jeudi. À ce moment-là, l'école, d'abord premièrement c'était au mois de septembre, c'était les vacances. Et en plus, c'était un jeudi.
J'ai oublié
ça tout ça. C'était le double vacances parce qu'il y a des gens qui ont raconté que les garçons qui avaient découvert la grotte de Lascaux faisaient l'école buissonnière. Alors, ce n'est pas vrai du tout parce que c'était pendant les vacances au mois de septembre et c'était un jeudi en plus, jour où il n'y avait pas d'école. Maintenant, c'est le mercredi qu'il n'y a pas d'école, mais à ce moment-là, c'était le jeudi. Donc.
Vous êtes devant ce trou vers 3 heures de l'après-midi.
Vers 3 heures devant ce trou qui se présentait, si vous voulez, par un premier affaissement de la surface du sol de 80 cm de diamètre.
Qu'est-ce que c'était ce trou ? On le connaissait ?
Ce trou était connu, oui. Il paraît que une vingtaine d'années avant la découverte de la grotte, un arbre en se déracinant aurait soulevé une calotte de terre et laissé un trou à jour que les paysans des environs connaissaient, que les chasseurs connaissaient, paraît-il. Il faut toujours se méfier parce que tout le monde connaissait le trou après la découverte. Ça, c'est... Enfin, les gens le connaissaient puisque... il avait servi de dépotoir. Quand on a ouvert le trou pour descendre, on a trouvé le squelette de Nan. Donc une vieille femme y avait enterré son âne, avait profité de ce premier trou pour y enterrer son âne. Il y avait des bonbons de verre cassés, des morceaux de bois, donc ce trou était connu, mais personne jamais n'était descendu. Il faut dire qu'avant 1940, avant il n'y avait pas beaucoup de spéléologues. Les spéléologues, il y avait quelques pionniers comme les préhistoriens. C'est surtout depuis 1940 que ce grand boom a été lancé sur la préhistoire grâce à la découverte de Lascaux. Donc on est arrivé là, devant ce trou. On a d'abord lancé des pierres, que l'on a entendu dégringoler avec une forte résonance.
Sans qu'on sente qu'elles touchaient le fond.
Si, on a entendu les pierres qui roulaient et qui résonnaient fortement et avaient l'air de frapper contre quelque chose avec une forte résonance. Contre quoi ? On ne savait pas contre quoi elles se tapaient, mais ça avait une forte résonance. Alors on a commencé à essayer d'ouvrir le trou. Il y avait le premier trou de 80 cm et au fond, un autre petit trou tout petit entre deux pierres. Et là, on a pioché avec des poignards pour faire partir de la terre, pour faire partir des pierres, pour essayer de dégager un passage.
Enfin, des poignards, vos couteaux de poche.
C'était des poignards qu'on fabriquait soi-même, avec des lames de scie coupées, qu'on aiguisait et qu'on taillait en forme de poignard, qu'on fixait avec du bois.
Mais vous étiez une bande de chenapans, hein ?
Assez, on était quand même assez chenapans. Non, c'était notre manière de jouer.
Oui.
C'est tout. On n'avait pas de vélo. Vous savez, à l'époque, un vélo... Vous avez votre vélo, si vous passez le certificat d'études, si vous passez par le certificat d'études, pas de vélo. Il y en a même qui avaient passé le certificat qui n'avaient pas de vélo non plus, d'ailleurs. Enfin, il fallait quand même avoir certains...
Avant de rentrer sous terre, il faisait beau ce jour-là?
Oui, il faisait très beau, il faisait très sec depuis déjà... c'était juste le début de l'automne, quoi. C'est même pas de l'automne, puisque c'était le 12 septembre. Il faisait très beau, il faisait très chaud. Vous savez que l'arrière-saison en Périgord est souvent très très belle. Il fait souvent très très chaud en Périgord à partir du début septembre. Ça dure jusqu'à novembre. Donc il faisait très très beau. On a lancé les pierres, on a ouvert le trou et Ravida, l'aîné, me dit, toi qui n'es pas gros.
Ouvert le trou avez déblayé les ronces.
Déblayé les ronces, mais ouvert le petit trou du fond là, pour dégager le passage. Ravida me dit, toi qui n'es pas gros, tu devrais essayer de te glisser là. Alors je m'enfile dans le trou, vous savez, courageux, mais tout juste. J'avais les pieds qui remuaient dans le vide, et puis je dis, oh non, je ne peux pas passer, j'étouffe. Ah, ils m'ont ressorti du trou.
Pas content.
Pas très content, ils me disent, tu as un dégonflage, je dis, d'accord, mais enfin... on a essayé, alors on a refait partir des pierres. Alors, Ravida, avec son poignard, a dégagé une grosse pierre qui est partie le long du cône des Boulis, et une pierre qui avait au moins plus de 40 cm de diamètre, ce qui fait que... À ce moment-là, il s'est glissé le long de cette sorte de faille. Il y avait ce premier trou, puis le deuxième trou en forme de faille, presque verticale. Et tout de suite après, il m'a dit, viens, on dirait que ça s'agrandit. Ce jour-là, on avait une petite lampe, qui était une fabrication de Ravida, d'ailleurs.
Comment il se tenait? Parce qu'il était le plus lourd de vous tous, vous ne pouviez pas le tenir.
Mais on ne le tenait pas du tout, c'était très étroit.
Alors c'est son corps qui le
tenait.
Avec
les coudes, avec le bras, avec les fesses, il s'accrochait, il ne pouvait pas tomber. Il est arrivé sur ce sommet de cône d'effondrement, qui était là tout de suite après, quoi, environ 1,50 m, 2 mètres plus bas. Et avec sa petite lame, il dit, on dirait que ça s'agrandit. Alors moi je suis descendu, et les deux Parisiens ont suivi. On s'est mis sur le dos, comme ça. Et on s'est laissé descendre le long de ce cône des Boulis qui arrivait dans la grotte directement. Ce jour-là, comme éclairage, nous n'avions qu'une petite lampe.
Électrique.
Même pas, c'était la guerre, c'était une pompe à graisse transformée en lampe à pétrole. C'est une lampe fabriquée par Ravida, au garage.
Au garage.
Voilà, et c'est tout simple. Il avait élevé la pompe, il a mis une mèche et du pétrole. Vous savez, une petite flamme comme ça, à peine une bougie. Et forcément, en venant du soleil extérieur, en arrivant dans ce trou noir, on ne voyait presque rien. Et on s'est avancé tout droit dans la grotte, mais sans voir ce qui se passait au-dessus de nous.
Mais avancez, vous vous teniez debout ?
Au fond, la grotte, on se tenait debout. On ne voyait même pas le plafond.
Donc vous sentiez que vous étiez dans un endroit dont vous ne sentiez pas les dimensions.
Voilà, pas exactement, non.
Mais qui était plus large que le goulot d'entrée.
Voilà, bon, mais beaucoup plus large. Il n'y a pas de comparaison possible. C'était vraiment beaucoup plus large.
Vous aviez peur, là, non ?
Et là, on avait un peu peur. On était impressionnés par le fait... On s'est rendu compte, si vous voulez, qu'on était tombé dans une caverne, une grotte inconnue. Parce que ça, on s'en est rendu compte, puisqu'on connaissait les autres grottes des environs. On a vu qu'on était dans une caverne inconnue, mais dont on ne voyait pas le plafond, parce que la lumière ne le permettait pas, dont on ne voyait pas les bords. Alors on s'est avancé là, directement, et on est arrivé dans un passage, un peu plus étroit, et là, en soulevant la lumière, on a vu que le plafond était couvert de peinture. Rouge, noir, jaune, de chevaux, de vaches, on était complètement dingue quand on a vu ça. Et plus on avançait dans ce couloir, plus le plafond était peint de peinture.
Mais la petite loupiote dont vous me parliez suffisait à éclairer
oui,
le plafond.
Oui, parce que le fait d'être entré dans la pénombre, d'avoir traversé, nos yeux se sont accoutumés à la lumière, à la pénombre, à cette bougie qui nous servait à nous éclairer les pieds. Mais ensuite, quand on a levé la lampe, elle a suffi à nous éclairer le plafond. Car le plafond de la salle qui faisait suite était beaucoup plus bas que celui de la première. Alors, on a vu les peintures au plafond. Alors là, on est enthousiasmé, c'était un mot qu'on n'employait pas. On était littéralement dingue, fou. On se donnait des coups de poing. On dit, tu as vu celui-là, tu as vu celle-ci, tu as vu celle-là. Sans comprendre vraiment, on était très, très, très excités.
Il y avait quoi, peint?
Écoutez, il y avait des chevaux, il y avait des vaches, il y avait d'autres chevaux style un peu des poneys. On s'est aventuré plus loin, on a vu un énorme taureau noir. Ensuite, au fond, des chevaux qui avaient l'air de tomber, dont un qui était même pas à l'envers. On est allé jusqu'au fond, là-bas.
C'était rouge et noir, l'ensemble.
Rouge, noir et jaune, avec sur un fond blanc, car tout le plafond de la grotte était un fond blanc crème un peu. Et on s'est allé jusqu'au fond, on a vu qu'il y avait un boyau qui se prolongeait. Et on est revenu sur nos pas. On est revenu sur nos pas et on est revenu dans la première salle que nous avions traversée sans rien voir. Mais là, nos yeux étant accoutumés, on s'est aperçu que la salle que nous avions traversée était couverte de peintures encore plus grandes, d'énormes taureaux, des vaches, des cerfs. Il y en avait partout. Et puis là, on s'est aperçu qu'il y avait un couloir à gauche qui s'ouvrait. Et on s'est avancé dans ce couloir, mais il fallait passer pratiquement à quatre pattes. Et là, on ne voyait presque rien parce qu'il n'y avait pas de peinture aussi belle que dans la partie que nous avions traversée. On s'est avancé un petit peu plus loin, on a quitté ce passage, on est arrivé dans une autre salle à gauche, où là, on a retrouvé à nouveau des peintures qui étaient cernées même d'un trait gravé. Il y avait là un bison et des chevaux, il y avait aussi une grande vache avec toute une série de petits chevaux, plutôt de petites femelles avec la tête fine. Et en face, on a eu une grande frise de cerfs, de têtes de cerfs. Et on s'est aventuré encore un petit peu. On est arrivé devant deux très beaux bisons. Et on a continué ce couloir qui devenait de plus en plus étroit. Et on a vu que ça s'était prolongé par un boyau. Notre lampe menaçant de faiblir, on a décidé de revenir sur nos pas. On est revenu et on a vu qu'il y avait une autre salle, là, toute petite, elle fait 4 mètres de haut à peu près, 3, 4, 5 mètres de large. On est monté là, ça montait un petit peu, et on a vu qu'il y avait là un trou, un espèce de puits noir où on ne voyait rien, alors on a préféré ressortir. On est resté le premier jour environ une heure dans la grotte.
Une heure.
À peu près.
Mais vous, avant d'aller plus loin, Jacques, vous vous disiez quoi? Vous compreniez de quoi il s'agissait ou pas?
C'est difficile à dire. On a pensé tout de suite que l'on avait découvert quelque chose de très important, mais sans se rendre compte de la valeur exacte de ce que nous avions trouvé. On était persuadés d'avoir trouvé quelque chose d'important, mais on ne savait pas très bien comment. On était excessivement fiers, contents, excités, sans vraiment comprendre.
Vous deviez être dans un état incroyable.
On était dans un état second, vous voyez, on ne réalisait pas très bien. On croit rêver. C'est bien simple, c'est qu'on est revenu. On est rentré le soir.
Chacun chez soi.
On s'est dit dans la grotte avant de sortir, on reviendra demain. Avec des lampes et des cordes pour aller partout. Dans les parties où il y avait des boyaux, on ne savait pas où ça allait, on reviendra demain. Mais on ne dit rien à personne. On passe par des chemins différents. Toi tu passes par là, l'autre passe par là, on se donne rendez-vous au-dessus du trou sans rien dire. Et on passe, on amène le casse-croûte pour la journée, et on a passé la journée complète dans la grotte.
Et avec aussi l'idée de ne rien dire à la maison chez soi.
Et ne disant rien du tout. Il y avait le Cuencas qui habitait juste en face de chez moi. Le soir en mangeant, je sortais, j'appelais Simon qui habitait à l'étage au-dessus. Simon ! Alors Simon quittait la table, il venait aussi. On se tapait dans les mains, on se disait rien, on repartait à table. Je me rappelle très bien.
Pour se réexciter.
Se réexciter. Ma mère dit, mais qu'est-ce qu'il a ce gosse? Qu'est-ce qu'il a ce gosse? On était complètement excités. Mais 3-4 fois au cours du repas, Simon, ou alors Jacques.
Le repas du soir de ce jour-là.
De ce jour-là.
Vous étiez arrivé en retard à table?
Oh, pas tellement, non. Parce que on était resté une heure, on est sorti vers 5h30, quoi, à peu près.
Ouais.
Et le temps de descendre tranquillement à Montignac.
Et vos parents n'ont pas trouvé que vous faisiez une drôle de tête, non?
Je ne sais pas si mes parents se sont bien rendus compte, ils ont dit qu'il était un peu fou, quoi, mais on n'a rien dit, vous comprenez. On avait dit on ne dit rien, mais c'est tout. C'est comme ça. On est donc revenu le lendemain. On a passé toute la journée dans la grotte. On a prospecté partout.
Alors vous êtes revenu avec armes et bagages, si j'ose dire.
Avec des cordes, hein. Des lampes plus puissantes, lampes acétylène notamment. Et on est allé dans toutes les parties de la grotte.
Qui c'est qui avait les lampes acétylène entre vous là?
Ben, c'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier qu'à la campagne, il y a beaucoup de gens qui ont des lampes acétylène. Et Ravida en avait une parce que dans ses parents étaient un peu originaires de la campagne. Ils avaient une vache et un cheval, je crois, ou une jument, je ne sais pas. Ouais. Et à l'étable, c'était la lampe acétylène. Voilà. Donc il avait ça.
Lampe et corde.
Lampe, corde, lampe électrique, poignard, enfin tout le style. Oui. Tout ce qu'il nous fallait.
Et de quoi manger?
Et le casse-croûte pour la journée. On avait amené des sandwichs. On appelle ça des sandwichs maintenant c'était autrefois, c'était le casse-croûte. On avait du pain, des rillettes, du fromage, ce que nous avions. Et puis notre boisson habituelle.
Qui était quoi? Qui était le
coco.
Le coco à l'eau. Et vous aviez dit à vos parents, chez vous, vous alliez ou pas? Non, toujours pas.
Non, on n'a toujours pas dit, puisque c'était les vacances, j'avais rien à dire, moi.
Mais quand même, partir pour la journée, comme c'était normal.
On a dit qu'on allait travailler dans un, qu'on allait prospecter dans un trou qu'on avait trouvé, et puis c'est tout. Les parents laissaient la liberté aux enfants quand même, surtout à la campagne à ce moment-là.
Et alors?
Alors on a passé la journée dans la grotte, à prospecter partout.
Alors aller dans les endroits où vous n'étiez pas allé.
Dans les endroits, par exemple, pour aller au fond du puits, le fond du puits, bon, il fallait une corde. On s'est aperçu que c'était une masse de terre en surplomb. Mmh. On a lancé de la terre qu'on avait pris là pour envoyer. On a dit à peu près 4 mètres, 5 mètres de profondeur, 6 mètres, on ne sait pas, on ne s'en est pas bien compte. Mais pour descendre dans le puits, ce n'était pas facile parce qu'il y avait une masse de terre en surplomb. Alors Ravida a décidé de descendre le premier, comme c'était l'aîné. Et pour descendre au fond du puits, il a fallu passer une corde autour de ses épaules et les trois autres
le tenir.
Comprenez ? Et lâcher la corde au fur et à mesure qu'il descendait. C'est nous qui le descendions plutôt. Mais pour remonter, ce n'était pas facile parce que la corde avait coupé la terre et il fallait le tirer. Et avec toute la terre qui tombait sur la figure, bien sûr. Et on a réussi à le tirer, ensuite on l'a attrapé, puis à tour de rôle, on est descendu comme ça. Au fond du puits. Au fond du puits, il y avait une chose exceptionnelle, c'est-à-dire que c'est la seule partie de la grotte où il y a une figuration humaine. Il y a un homme masqué avec une tête d'oiseau, complètement schématisé, deux bras, deux jambes raides. Cet homme est chargé par un bison. On voit le bison qui fonce, tête baissée, poils hérissés. Le corps du bison est traversé d'une grande sagaie, il perd les entrailles. Au pied de l'homme, il y a un petit oiseau, qui est exactement la même tête que l'homme, et certains pensent qu'il s'agit peut-être d'un totem ou poteau funéraire. D'autres vous diront l'âme, ça dépend des préhistoriens.
La taille de l'homme est identique
à... Ah non, c'était un personnage de 80 cm de hauteur, vous voyez, mais tout à fait schématisé. Or, le bison étant, lui, très réaliste, le bonhomme est tout à fait schématisé. On pense peut-être, enfin certains pensent, qu'ils avaient peut-être peur de figurer l'homme à son image, et c'est pourquoi les figurations humaines dans les grottes sont excessivement rares. Donc il y avait cette scène-là, 6 points noirs et un rhinocéros des cavernes, un rhinocéros à long poil qui avait l'air de fuir cette scène ou de se désintéresser. Alors ce n'était pas facile pour descendre dans ce puits, on est revenu là. Et ensuite, on est rentré chez soi le soir.
Donc vous avez déjeuné sur place?
On a mangé sur place, oui, on a passé toute la journée, je vous dis, dans la grotte. Hein? On a mangé sur place et ensuite le lendemain, on a décidé d'amener des petits copains. Parce que la langue nous démangeait. On avait l'impression d'être très fiers d'avoir trouvé quelque chose, mais si personne ne le savait.
Mais c'était plus un plaisir.
C'était plus un plaisir. Ouais. Ça a gâché notre plaisir. Il fallait que le dire. Ouais. Alors, on a décidé d'amener des petits copains, mais on voulait quand même essayer d'en tirer quelque chose. On leur a fait payer 40 sous chacun pour leur montrer la grotte.
Alors, chacun d'entre vous, finalement, et sans se le dire, a enfreint le serment du silence, non ?
Oui, on a fait enfreint le serment du silence, si vous voulez. Mais chacun, en étant plus ou moins conscient quand même, parce qu'on savait bien que Ravida allait amener quelqu'un, comme Ravida savait bien que j'allais amener quelqu'un, plus ou moins,
Simon
sans
avait
être
frère,
sûr.
Non ?
Simon et son frère. Ouais. D'abord, déjà le lendemain, son frère était déjà venu.
Ah.
Parce que le lendemain, nous n'étions plus quatre, nous étions cinq, j'ai oublié de vous le dire, c'est vrai, c'est que le lendemain, Cuencas ayant couché avec son frère, il n'a pas pu faire autrement que de lui dire.
Il n'a pas pu s'empêcher de lui
dire. Il n'a pas pu s'empêcher de lui dire. Alors, ce qui fait que le lendemain, au lieu d'être quatre, nous étions cinq. Et alors, le surlendemain, alors le troisième jour, il y avait chacun amené cinq ou six petits copains, on était une trentaine. Et puis, ça fait traîner de poudre.
Toute l'école.
Alors, après, toute l'école, c'était les vacances. Mais en fait, tout le monde a appliqué. Pas seulement les écoles, même ceux qui étaient en vacances, même les plus grands qui étaient dans le lycée à Périgueux, ça fait traîner de poudre. Et tout le monde, ils ont trouvé un truc là-haut, Marcel et Ravida, formidable. Et puis, là. Alors, ça appliquait de partout.
Nous tous, chacun, par Jean-Claude Brinquier.
C'était Jacques, guide et gardien des grottes de Lascaux, premier volet diffusé le 29 septembre 1980. Tout de suite, le deuxième épisode du témoignage de Jacques Marsal pour l'émission Nous tous, chacun.
Nous tous, chacun, par Jean-Claude Brinquier.
Il y a Simon, Georges et Marcel, et Jacques qui raconte l'histoire. Hier, à cette heure-ci, je veux dire il y a 40 ans, un jour d'automne semblable, nos héros, âgés de 14 ou 15 ans, découvrent dans les bois du Périgord une grotte merveilleuse, couverte de peintures. Elle va devenir célèbre dans le monde entier, c'est la grotte préhistorique de Lascaux. Chapitre 2. La grotte merveilleuse va-t-elle échapper aux enfants qui l'ont trouvée ? Arrivée de Monsieur Laval, l'instituteur, amateur de préhistoire.
Et alors, on s'est mis d'accord avec Ravida pour aller en parler à quelqu'un. J'ai dit, moi, j'avais chez moi un gendarme qui prenait pension chez ma mère, qui, je vous l'ai dit, tenait restaurant.
À votre moment,
tenait un restaurant. Alors, ce gendarme, quand sa femme partait dans sa famille, venait prendre pension chez ma mère. Et ce gendarme, au cours de ses tournées, m'avait dit qu'il avait trouvé, au cours de ses tournées, des pièces romaines, car il y a un ancien habitat romain, romain à Montignac, tout près. Et il avait montré ces pièces, donc, à M. Laval, qui était un ancien instituteur en retraite.
Et dit, qui avait été votre instituteur.
Qui avait été mon ancien instituteur, mais des petites classes de l'école maternelle. Et
D'après la maternelle.
Après la maternelle. Alors, ce gendarme me dit, j'ai trouvé une pièce romaine, je l'ai montrée donc à M. Laval, et il m'a dit quel était le nom de l'empereur, quelle était la période et tout, et pour une chose que vous avez découverte qui a l'air intéressante, parce que j'ai commencé à en parler, vous devriez peut-être aller en faire part à M. Laval, qui vous dirait ou donner la marche à suivre. Donc, en accord avec ceux qui ont découvert la grotte avec moi, je suis allé trouver M. Laval. Seulement, M. Laval était un instituteur en retraite.
Il avait quel âge, là ?
Il avait déjà près de 60 ans, même peut-être plus de 60 ans.
Il avait le goût des choses...
Il avait le goût des choses anciennes, parce qu'il il faisait partie de la Société préhistorique française, et il avait fait, avec d'autres gens de Montignac et des environs, la découverte d'un polissoir néolithique, dont il était l'inventeur, par le fait, puisque c'est le terme. Et ce polissoir néolithique était exposé dans Montignac. Il y a eu une inauguration en 1936, je crois.
Donc il avait quelques petites notions.
Il avait quand même quelques notions. Et donc, je me suis mis d'accord avec mes copains, et j'en ai voulu en faire part à M. Laval. Seulement, comme je vous l'ai dit, il était en retraite, il était d'un certain âge. Il avait fait beaucoup de choses dans sa vie, donc, et même de la critique théâtrale. Il avait fait plus ou moins de journalisme. C'était un très bon vivant, et puis il a pensé tout de suite que ses anciens élèves, connaissant sa marotte pour la préhistoire, ou le menaient en bateau, voulaient le faire marcher. Alors il était très sceptique, il ne voulait pas monter, parce qu'il fallait se farcir la colline, comme ça, au milieu des ronces, il n'y avait pas de route, il n'y avait rien du tout. Alors le premier jour, il n'a pas voulu venir. Seulement des gars des lycées, des environs, des gars de 17-18 ans qui étaient à l'école, sont venus à la scoie, ont fait quelques croquis et ont montré à M. Laval. Lui qui croyait que c'était des pierres figures ou des stalactites qui avaient la forme de ceci ou la forme de cela, s'est rendu compte que c'était peut-être beaucoup plus important qu'il ne le supposait. Alors on l'a décidé à monter.
On l'a décidé en lui montrant
Des croquis
faits sur place.
Faits sur place. Plus ou moins ressemblants, mais enfin assez ressemblants tout de même. Oui. Et M. Laval est venu. Il est venu. Seulement, quand l'instituteur s'est présenté devant le trou, il n'a pas voulu descendre parce qu'il n'était pas courageux, lui non plus. Il était ventripotent et d'abord, il n'aurait pas pu passer. Alors, avec toutes les jeunes qui étions là à ce moment-là, parce qu'on était toute une bande à ce moment-là, on est allé à la ferme au-dessus, chercher des pelles et des pioches. On a ouvert le trou. On a fait une grande tranchée avant le trou. En arrivant au sommet du cône des Boulis, on a cassé le calcaire et on a taillé des marches pour faire descendre l'instituteur. On l'a plus ou moins attaché et on l'a descendu dans le trou. Et quand il est arrivé dans la salle des taux, il dit « Oh merde !» C'était le premier cri d'enthousiasme de
que vous avez entendu.
Voilà. D'une grande personne. Quand M. Laval est descendu la première fois, après que nous ayons tout dégagé, beaucoup d'autres personnes aussi âgées ou d'une quarantaine d'années étaient déjà descendues, les paysans des environs, les enfants des paysans des environs, une vieille femme de près de 80 ans était déjà descendue dans le trou. Seulement, ce sont des gens, des paysans qui ne connaissaient pas ce qu'ils voyaient. Ils voyaient une grotte, c'est beau, mais ils ne savaient pas ce que c'était.
Qu'est-ce qu'une vieille dame de 80 ans était venue faire dans ce trou-là? La curiosité,
c'est... La curiosité, parce que c'était la ferme qui était au-dessus. Or, dans sa jeunesse, elle avait gardé les moutons. Elle s'est rappelée qu'elle avait connu ce trou, mais qu'elle ne pouvait pas s'imaginer qu'il y aurait des choses comme ça. Et elle a voulu venir tout de suite, parce qu'elle dit, tiens, ce trou, mais c'est le trou que... Et elle a voulu voir.
Et quand M. Laval est descendu, je suppose qu'il y avait des gosses au-dessus et des gosses qui l'attendaient en bas aussi.
Oui, il y avait, tout le monde était autour de lui, là, à ce moment-là. Il n'y avait plus aucun problème.
Donc il était éclairé, il a vu tout de suite.
Il était éclairé, il y avait plusieurs lampes à cette île, des lampes électriques. Tous les jeunes de Montignac étaient déjà venus, vous voyez. Ça commençait à grouiller sur la colline, si vous voulez.
Donc il a vu le spectacle de suite.
C'est ça. Et il a compris tout de suite, alors, quelle était l'importance de la grotte. Ensuite, quand il est revenu, il accompagnait des gens, parce qu'il a fait tout de suite office de personnage important autour de la grotte. Nous, par le fait, nous n'étions que des gamins. Alors, on avait trouvé la grotte, c'était bien gentil, mais on n'était pas des personnages capables de contacter des personnalités, savoir qu'il fallait contacter. On ne savait pas. D'abord, on est allé chercher M. Laval sans savoir pourquoi ni comment. Logiquement, on n'aurait pas dû aller voir M. Laval. On aurait dû contacter le directeur des antiquités préhistoriques. Je ne savais même pas que ça existait.
Naturellement. À 15 ans, on va trouver son instituteur.
Voilà, c'était tout à fait normal. On aurait pu aller trouver le maire de Montignac.
Non.
Mais on n'y a pas pensé.
C'était l'adulte le plus proche de cette découverte.
Voilà, si vous voulez, oui.
Au fond, c'est ça. Hein.
C'est ça.
Alors, continuons.
Alors remue-ménage dans tout le pays, tous les gens arrivent de partout, et beaucoup, notamment, il y avait des réfugiés à Montignac, à l'hôtel, un peu partout. Et parmi ces réfugiés, s'est présenté un jour à la grotte un monsieur que l'on ne connaissait pas, relativement jeune à l'époque, parce que moi j'avais 15 ans, il devait avoir 25, 26 ans, c'était déjà un personnage, un homme, alors que moi j'étais un jeune garçon. Et cet homme se présente pour descendre dans la grotte. Ne le connaissant pas, on ne peut pas le laisser entrer. Il nous dit qu'il était un élève d'un préhistorien important. Il dit, c'est possible, mais en attendant, on ne le laisse pas entrer.
Parce que vous étiez devenus les gardiens de la grotte.
On gardait, pour nous, on a cru que c'était chez nous, cette affaire-là. Hein. On ne savait pas qui c'était, on l'avait trouvé, c'était à nous. Au départ, on a cru que c'était à nous. On a vite déchanté, d'ailleurs. Mais enfin, au départ, on croyait que c'était à nous. Et tous les gens qui voulaient entrer, il fallait avoir notre accord pour entrer.
Mais Jacques, vous ne pouviez pas garder jour et nuit.
On a campé sur place, on a couché sur place, on a amené des tentes et on a gardé sur place la grotte. On y couchait. Tous les jeunes de Montignac venaient vivre avec nous à Lascaux.
Il y avait un campement autour de...
On a fait un campement complet autour de Lascaux. Tous les jeunes, même le curé avait prêté sa tente, la tente des scouts. C'était après la débâcle, tout le monde avait des toiles de tente de soldats. Vous savez, qu'on avait récupéré de la débâcle, parce qu'il y a eu plein de soldats à la débâcle. Tout le monde en avait. On se faisait faire des pantalons dedans. C'était la guerre. On se faisait faire un pantalon dans les toiles de tente de la guerre. Vous voyez ? Les carrés, vous voyez ce que c'était ?
Merci.
Alors, on avait récupéré ça aux soldats de la débâcle, et on se faisait faire des pantalons avec. Alors, donc, on a fait construire notre tente.
Et alors, vous avez fait les sentinelles comme ça pendant combien
de
temps ?
On a gardé la grotte. Tous les premiers temps, je vous dis, on est resté même assez longtemps. Finalement, on est resté 6 mois.
6 mois ?
Oui, on est resté 6 mois campés sur place. Alors, plus toute la bande. Après, il n'y avait plus que Ravida et moi et un copain à Ravida. Hein, on n'était resté qu'à 3, finalement. Mais tous les autres étant repartis, si vous voulez, après l'euphorie de la découverte.
Oui.
Mais dans ces premiers temps, tout le monde était là. Tous les jeunes de Montignac étaient là. Et arrive donc cette personne qu'on ne veut pas laisser pénétrer. Cette personne va trouver M. Laval, donc, notre instituteur, lui parle, et M. Laval lui fait un mot pour nous remettre. Alors ce type-là nous a remis un mot, et on l'a laissé entrer, puisque M. Laval l'autorisait à entrer, pourquoi pas.
Oui.
On l'a laissé entrer, il a fait toute une série de croquis. Ensuite, il est parti à Brive, où il savait, lui, retrouver l'abbé Breuil.
Ah oui, qui était le grand spécialiste... Qui
était le grand spécialiste français et international de la préhistoire. L'abbé Breuil se trouvait à Brive, pourquoi ? Il se trouvait chez d'autres préhistoriens, qui sont les abbés Buissoni, qui avaient fait la découverte d'un squelette, qu'on appelle l'homme de la chapelle au sein. Et l'abbé Breuil, les connaissant, avait été reçu à l'école Bossuet, au collège Bossuet à Brive, qui est une école tenue par des prêtres, si vous voulez. L'abbé Breuil était là. Monsieur Taon, donc, c'était le nom de ce personnage, a porté des croquis à l'abbé Breuil, qui est venu tout de suite. L'abbé Breuil a pris les abbés Buissoni, bien entendu. Il a passé par Terrasson en prenant le docteur Chénier, qui était un préhistorien connu de Terrasson, et il est arrivé à Montignac, à Lascaux. Alors, monsieur l'a dit, mais l'abbé Breuil vient, c'est un personnage. Nous, on ne savait pas qui c'était l'abbé Breuil, mais c'est un personnage extraordinaire, c'est ceci, c'est cela. Alors, nous, on recevait l'abbé Breuil comme on recevait le Messie. Vous comprenez ?
Celui qui savait.
Celui qui savait. Et l'abbé Breuil est descendu avec les abbés Buissoni, les préhistoriens, et nous, on a suivi en écoutant toutes les histoires que racontait l'abbé Breuil. Vous voyez, il semble très bien comprendre. On a commencé à réaliser.
Voilà, un destin change, il bifurque. Pas le jour de la découverte, un peu plus tard. Les autres, les camarades, vont rentrer peu à peu, chez eux ou à Paris. Ils vont regagner le fil de leur vie, seulement interrompu. Lui, non. Il s'enfonce comme naguère dans la grotte, au cœur de cette aventure qui a barré d'un trait de foudre le temps de sa jeune vie. Lascaux l'a pris et ne le lâchera jamais.
Le soir, on allait à Montignac, là-bas, jouer. Il y avait un cinéma ambulant, parce que les autres cinémas ne marchaient pas, un cinéma ambulant en plein air. Et alors, après le soir, on allait à Montignac, et ensuite, on revenait coucher à Lascaux. Un soir, après l'abbé Breuil, on a voulu coucher à Lascaux, on avait été à notre petit cinéma ambulant. En remontant le soir, on a trouvé 80 paysans qui se balayaient dans la grotte avec des lampes à acétylène, avec tous les problèmes que cela comportait. Et c'est à ce moment-là qu'on a dit, maintenant c'est terminé. L'abbé Breuil nous avait dit, il faut surtout éviter que des gens entrent, ceci, cela. Alors on a commencé à s'installer vraiment sur place, avec Ravida. Les autres étant plus ou moins repartis chez eux, on s'est installé avec Ravida, dans une tente qu'on avait construite avec les toiles de tente des soldats, bien équipés, lampes à acétylène. Ravida avait son fusil parce qu'il avait un fusil de chasse, et puis on était là, on couchait.
Mais l'hiver venait à ce moment-là.
L'hiver venait seulement. On avait installé un poêle et on faisait du feu à l'extérieur. Et notre famille, la famille Ravida, oui, et ma famille venaient nous porter à manger. C'était vachement chouette, vous vous rendez compte. Alors ma soeur me portait à manger, la soeur de Ravida lui portait à manger. On était là, toujours là, au milieu des bois. Et on accompagnait tous les gens qui se présentaient. Ce qui fait que plus personne n'entrait dans la grotte sans qu'on les accompagne et sans qu'on se fasse du pourboire. Vous comprenez ? Ça a été notre première situation.
Combien vous les faisiez payer ?
On les faisait payer 40 sous. au début. Puis après, on ne faisait plus payer après la visite de l'abbé Breuil, mais les gens se croyaient obligés de nous donner quelque chose puisqu'on les accompagnait.
Et l'école pendant ce temps ?
Et l'école, j'ai plus voulu jamais revenir à l'école parce que l'école reprenait en octobre. On s'était installé sur place, vivre sur place. On avait tout ce qu'il nous fallait, on nous nourrissait. Et puis j'étais là très bien, je voulais plus tout revenir à l'école. Et comme mes parents m'ont toujours laissé à peu près faire ce que je voulais, j'étais un peu gâté. J'ai dit que je voulais plus revenir à l'école, que je voulais rester là-haut, que je gagnais de l'argent là-haut et qu'il n'était pas question que je revienne à l'école. Et puis, terminé.
Bon, vous étiez parti à 4 dans cette affaire. Et vous vous retrouvez à deux avec Ravida et vous, Marcel, vous. Oui, vous voyez ce que je veux dire.
Oui, je comprends très bien. Je vais vous expliquer tout simplement. Il se trouve que, ici, nous étions en zone non occupée. Oui. C'était après la débâcle, et Simon Quincas était là avec sa mère, son père était resté à Paris, oui. C'était un israélite, et Georges Agnès était resté là chez sa grand-mère, sa mère était repartie à Paris. Ensuite, il y a eu possibilité... avec les accords entre le gouvernement de Vichy et les occupants, de pouvoir régulariser, si vous voulez, les situations, c'est-à-dire que les réfugiés du sud de la France pouvaient revenir à Paris, ou inversement, si vous voulez. Et Quincas, par le fait, n'a jamais vu l'abbé Breuil. Quincas, son père était revenu le chercher avec possibilité de passer la ligne de démarcation pour revenir à Paris.
Il est parti plus tôt.
Et... Georges Agnès a vu l'abbé Breuil parce qu'il est resté sur nous à camper pendant un certain temps, mais Quincas n'a jamais seulement campé avec nous, pratiquement. Il est parti presque aussitôt après les découvertes. Je crois que 4 jours après, il était parti. Et Agnès est resté 3 semaines. Ensuite, de la même manière, la mère d'Agnès est venue reprendre son fils et l'a ramené à Paris. Et ces garçons-là n'ont plus rien à faire avec la grotte de Lascaux.
Mais au fond, tel que vous décrivez les choses... Pour l'enfant que vous étiez, enfin l'adolescent que vous étiez, plus rien d'autre ne comptait que ça.
Et plus rien d'autre ne comptait que ça. Et je crois que ça a dû marquer ma vie parce que je suis encore là.
Hein. Et oui, alors justement, on va parler de ça. Vous n'avez jamais quitté Lascaux, Jacques ?
Je n'ai pratiquement pas quitté Lascaux pendant toute cette période-là, d'abord. Ensuite, on s'est vite rendu compte qu'il y avait un propriétaire. Parce que je me rappelle que le deuxième dimanche après la visite de l'abbé Breuil, l'abbé Breuil était venu dans la semaine, et le dimanche, plein de gens sont venus. Et je m'étais placé au-dessus du trou et je faisais payer 40 sous à tout le monde. Et plein de gens venaient de partout.
Mais qu'est-ce qui vous tenait là ? C'était pas les 40 sous des gens ? Si, c'était peut-être ça d'ailleurs.
Un petit peu.
C'était la fascination de cet endroit que vous aviez trouvé. C'était quel sentiment ?
C'était les deux à la fois. C'était la fascination de ce que nous avions trouvé, et puis le fait que l'on pouvait se faire un peu d'argent.
Oui.
Un peu d'argent, parce que c'est pas comme aujourd'hui. Vous savez, l'argent n'était pas distribué de la même manière aux enfants. Il s'en faut. Et quand on pouvait avoir de l'argent, c'était quand même quelque chose de très important. C'était la guerre. Je vais d'abord le dire très simplement. Par cet argent-là, j'ai pu m'acheter un blouson. En Suédine, dont je rêvais depuis longtemps. Comprenez ? C'était quand même important. Alors donc, j'étais là, et plein de gens sont venus. Il était entré au moins près de 300 personnes. L'abbé Breuil avait pratiquement fait presque une semi-conférence au-dessus du trou. Et le soir de ce fameux dimanche, je me suis rendu compte qu'il y avait un propriétaire, parce que le régisseur de la propriété... est venu me prendre la moitié des sous que j'avais récupérés au-dessus du trou.
Il les a demandés comme ça.
Il a dit, je suis le régisseur de la propriété, puis on m'a dit, c'est légal, il n'y a rien à faire, on lui donne la moitié de la recette. Alors on a partagé avec Agnès, Ravida et moi, ouais. Et l'autre moitié de l'argent a été pris par le régisseur. Puis c'est tout. Alors on s'est rendu compte qu'il y avait quelqu'un là. Ensuite, l'élève de l'abbé Breuil, là, M. Maurice Taon, l'abbé Breuil l'a chargé plus ou moins de faire des relevés, des dessins de la grotte pour l'abbé Breuil. C'était la guerre. Vous voyez, c'était une période assez trouble. Alors, ce type-là a commencé à travailler à Lascaux. Ensuite, il a fait venir un photographe qui était à Montignac, qui était un Belge, réfugié à Montignac aussi. Et c'est ce M. Taon qui a amené ce Belge par l'intermédiaire de l'abbé Breuil pour faire des photos dans la grotte. Et Ravida est allé reprendre son travail. Et moi, je suis resté à les aider. Je faisais, le porte-lampe. On me donnait une petite pièce par-ci, une petite pièce par-là, mais je suis resté là. Jusqu'en 1942, où la France a été complètement occupée.
Alors, les Allemands sont arrivés.
Et les Allemands sont arrivés, où la résistance a commencé, vraiment.
Le maquis.
Le maquis, dans les coins, un peu par-ci, un peu par-là, à cause des gens qui ne voulaient pas partir en Allemagne, dont Rabida.
Ça me frappe d'ailleurs parce que, non seulement cette découverte de Lascaux a conditionné votre vie, naturellement, puisque vous y êtes toujours, mais pas seulement la vôtre. Par exemple, vous me dites que Maurice Thaon, qui était l'adjoint de l'abbé Ébreuil, s'est installé.
Oui, s'est installé. Il s'est marié avec une fille de Montignac. Et il a travaillé comme photographe qui a fait pour préparer une future publication pour l'abbé Breuil. Oui. L'abbé Breuil avait des problèmes, paraît-il, je l'ai su après, avec le gouvernement de l'époque. Oui. Et il est parti à l'Espagne. Et il a fait paraître une première chose en Espagne, une première publication sur la grotte de Lascaux.
Avec en exil, en quelque sorte.
En exil, oui. et ça a paru en espagnol d'ailleurs. Et ces photos ont été fournies par le photographe belge et par Maurice Thaon qui les a fait parvenir à l'abbé Breuil.
Et vous êtes devenu en quelque sorte l'aide de Maurice Thaon.
L'aide de Maurice Thaon, l'aide du photographe et le guide qui accompagnait les gens, un petit peu tout si vous voulez.
Parce qu'à ce moment-là, les visites avaient commencé un petit peu.
Quelques visites par-ci, par-là. Ça n'a pas duré mais très ça longtemps, mais ça n'a pas très bien marché. Jusqu'à la période de 1942, où ça n'a plus marché du tout, les Allemands ont occupé toute la France.
Alors, ils arrivent, les Allemands, et ils s'informent. Et ils demandent qui a découvert cette grotte.
D'abord, disons qu'en 1942, ils occupent la France complète. À Lascaux, il n'y a plus rien pendant un moment. Un baraquement a été construit dessus, une porte en bois, c'est fermé. Plus personne n'y va, sauf peut-être un peu de temps en temps, M. Laval. Maurice Thaon est reparti, vous voyez. Et puis, il n'y a que le photographe qui vient de temps en temps faire des photos. Puis c'est tout. À Montignac, une usine de chaussures avait été montée. Je suis allé travailler dans cette usine de chaussures, à Montignac. Ensuite, les Allemands sont venus. J'ai été pris par les Allemands, enfermé à la mairie.
Pourquoi ?
Parce qu'ils venaient comme représailles, ils sont arrivés à Montignac, ils ont coincé partout. Oui. C'était en 44, mars 44, au moment où les Anglais avaient débarqué, je crois, en Normandie, les Américains. Alors les Allemands étaient très, comment dirais-je,
nerveux,
furieux
sur les dents.
Et sur les dents. Il y avait pas mal de résistants un petit peu partout. Alors ils sont arrivés, ils ont cerné complètement Montignac. Ils sont entrés là, ils ont pris tous les gens qu'ils voyaient. Aux usines, à la sortie des usines, un peu partout, ils ont pris tout le monde. On est enfermé à la mairie, on subit des interrogatoires. On me demande si j'étais avec ceux qui avaient découvert la grotte de Lascaux. J'ai dit que oui, et on me demande où était Rabida. Je dis Rabida, je crois qu'il il a reçu une feuille pour partir en Allemagne en 1943, et en principe, il doit être en Allemagne. C'est tout. Alors, on me dit, vous suivez-moi, prenez trois types avec vous et vous allez nous accompagner. C'était un Alsacien, un interprète, un soldat allemand. Alors, pour les accompagner, j'avais pas la clé. Il fallait prendre la clé chez le régisseur de la propriété, donc le fameux monsieur qui m'avait pris mes...
Il voulait venir à Lascaux.
Il voulait venir à Lascaux. Alors, donc, je suis allé chez le régisseur, M. Parmeau, prendre les clés, prendre des lampes, arrivé à la grotte. On était monté dans une colonne... En bas, là, de la route qui est toute droite. Une autre partie de la colonne avait fait le tour de l'autre côté parce qu'il y avait un vieux chemin qui montait là. Et on est monté à travers bois, devant, avec le garçon qui était avec moi, qui a été pris, et les deux autres de l'autre côté. Et on est monté à travers bois, en arrivant là, ici, la grotte, c'est le baraquement planche là-bas. Il dit, ben, allez ouvrir. Bon, je suis allé ouvrir, vers la porte, puis ils sont venus. On est descendu dans la grotte, ils ont regardé partout, ils n'ont rien trouvé. On est ressorti en descendant, on passe par le chemin comme ça, en descendant. L'interprète me dit, mais on va vous relâcher, parce qu'après tout, on n'a
rien trouvé. Il cherchait quoi ?
Mais il pouvait supposer que la grotte pouvait servir, comme Rabida le supposait dans la résistance, sans en être sûr, et il supposait que la grotte pouvait servir de dépôt d'armes ou de choses comme ça.
Ça n'a jamais servi de dépôt ?
Absolument pas, c'était connu des Allemands. Les Allemands avaient vu la grotte, déjà. Alors, c'était d'avoir une grotte avec une seule issue, c'était un piège. Les résistants n'allaient pas se mettre dans un piège, parce qu'ils n'avaient qu'une issue. Alors donc, ils me disent qu'ils devaient me relâcher, finalement, ils m'ont renfermé à la mairie. Le soir, on nous a embarqués dans des camions, on nous a amenés à Périgueux. À Périgueux, on était enfermés pendant 4 jours, et là, on nous a dit qu'on était partis pour l'Allemagne, et puis c'est tout. On nous a amenés à Munich, dans la gare de Munich, on était parqués, enfin, ceux qui étaient avec ce train-là. On était parqués dans la gare de Munich. On nous a remis dans les trains, nous a amenés à Graz, en Autriche. Là, dans un camp de triage où il y avait des Russes, des Polonais, toutes les races. Et ensuite, on nous a expédiés dans une partie annexée de la Yougoslavie, où j'ai travaillé dans une usine, d'une sorte d'émaillerie, dont une partie travaillait pour la guerre.
Et vous avez pu rentrer quand, finalement ?
Et là, je suis resté là, à Sili, c'est Selye en yougoslave, Sili en allemand.
Tout le reste de la guerre.
Tout le reste de la guerre, jusqu'au 8 mai, à la fin de la guerre, où là, on est parti à pied. Là, nous étions 20 Français dans ce coin-là, 20 Français. Il y avait 17 Français, un Italien et deux Espagnols qui avaient été ramassés ici, si vous voulez. Et on est parti à pied vers Trieste, vous voyez ? On a fait 400 km à pied pour arriver jusqu'à Trieste. Et là, un commandant anglais a arrêté un convoi, nous a fait monter dans des wagons, dans des camions, et on nous a embarqués dans un camp de triage, où tous les gens étaient ramassés. Et ensuite, ils ont trié les gens, les Français d'un côté, les Polonais de l'autre, les Tchèques de l'autre. Et on a envoyé de camp en camp, avec des prisonniers français. Et de camp en camp, on nous a amenés jusqu'à Naples, où là, on a attendu 3 semaines un bateau qui nous ramenait à Marseille. Voilà.
Et vous êtes rentré comme
ça. Et je suis rentré et je suis revenu à Montignac.
Nous tous, chacun, par Jean-Claude Brinquier.
C'était le deuxième volet du témoignage de Jacques Marsal pour l'émission Nous tous chacun, diffusée pour la première fois le 30 septembre 1980. Tout de suite, la troisième et dernière partie.
Nous tous chacun, par Jean-Claude Brinquier. Jacques et trois de ses amis, jouant dans les bois, découvrent une grotte ornée de dessins et de peintures. Les bois sont ceux du Périgord, la grotte va s'appeler Lascaux et devenir célèbre, il y a 40 ans presque jour pour jour. Mais entre-temps, la guerre, beaucoup de destins se font et se défont alors. Celui de Jacques, avant de suivre sa ligne singulière, va cheminer comme tant d'autres. Prison, Allemagne, Yougoslavie, libération... Retour par Trieste, puis Naples, puis Marseille, et enfin le Périgord, les bois, la grotte retrouvée.
Donc je reviens à Montignac. J'essaie de trouver du travail. La grotte de Lascaux n'était pas ouverte, c'était la grotte de Lascaux fermée, si vous voulez, pas aménagée.
C'était 45.
Là. C'était 45, donc il n'y avait rien, strictement rien. Pas d'emploi, pas de possibilité de quoi que ce soit.
Et vous aviez 20 ans.
Et j'avais 20 ans, un peu, à peine 20 ans, oui. Si, j'ai eu mes 20 ans sur la route à pied, c'est vrai. J'ai eu mes 20 ans sur la route à pied. Jusqu'au moment où on a commencé à aménager la grotte pour l'ouvrir au public.
Et vous l'avez su.
Ma mère était à Montignac et le ministre de l'Éducation nationale, car c'était l'Éducation nationale à ce moment-là, était M. Yvon Delbos, originaire de Montignac, député du... Et ma mère a écrit à Yvon Delbos en disant que son fils avait découvert la grotte et que, quoi qu'il arrive, son fils aurait un emploi.
Elle vous a bien défendu, là.
Hein? Elle m'a défendu à ce moment-là. Si bien que quand la grotte a ouvert au public, j'étais le seul employé officiel. Parce que le ministre avait écrit, et j'étais le conservateur du coin et l'architecte départemental savait... que j'étais Jacques Marsal et que j'embauchais.
Et donc, c'est ça. Et donc, vous étiez devenu guide de Lascaux.
Guide de Lascaux, c'est ça.
Voilà. Jacques a rejoint sa ligne propre, ce destin étrange qu'il attache à Lascaux depuis le jour de septembre où il l'a découvert. À partir de là, précisément, sa vie s'est infléchie. Dès le lendemain, il ne voulait même plus entendre parler d'école.
Il y a 40 ans, voilà.
Sans regret ?
Sans aucun regret. Et je suis content encore d'être là et je n'ai pas envie de le quitter du tout. Quoi qu'il arrive. Plus j'ai connu Lascaux, plus j'ai travaillé pour Lascaux, plus j'ai appris sur Lascaux et plus j'ai aimé Lascaux. Vous comprenez ?
Je crois que je comprends, oui.
Il arrive maintenant que j'apprécie 100 fois mieux la grotte de Lascaux que le jour où j'étais très excité, le jour de la découverte. Parce que maintenant, je comprends Lascaux. À ce moment-là, je ne le comprenais pas très bien.
Vous voulez dire que vous avez acquis des notions de physique, de chimie ?
Pas seulement ça.
Un peu de biologie, un peu de...
C'est pas encore ça, c'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est d'apprécier l'art de Lascaux. Vraiment. Parce que plus je le vois, plus je l'aime, et plus je suis enthousiasmé par la manière de faire de ces gens-là.
L'esthétique même.
Le côté esthétique de la grotte, déjà. Je ne parle pas des problèmes scientifiques auxquels j'ai été mêlé, où j'ai dû m'initier. Je veux parler simplement du sens artistique de Lascaux, de la belle chose qu'est la grotte de Lascaux. Café Noir, c'est une chose extraordinaire.
Qu'est-ce que c'est qui a appointé en vous ce goût-là, justement ?
Il y a beaucoup de choses. C'est d'abord, il y a la découverte et le contact des gens. Vous imaginez le nombre de gens que j'ai rencontrés ? Les personnalités importantes que j'ai rencontrées, les savants que j'ai rencontrés. Mais j'ai appris tous les jours, et tous les jours j'ai appris avec les gens.
Et les artistes.
Et les artistes. Pas seulement des préhistoriens, pas seulement des physiciens, mais les gens eux-mêmes, le contact des gens, les personnalités, les artistes. J'ai appris énormément de choses. Et j'ai su vraiment voir la grotte de Lascaux, que je n'avais pas su voir le jour de la découverte. C'est tout simple. Tout simplement, c'est la vie, quoi.
Ah oui, mais c'est formidable, parce que non seulement c'est ce que vous dites, mais en même temps, et je pense là à l'autre côté des choses, qui n'est pas le plus important, et je le comprends bien, mais qui existe quand même, vous qui êtes sorti de l'école à 15 ans, vous avez continué, et d'une façon combien originale, à faire vos classes, sur place ici.
Absolument, oui.
À faire de la chimie, à faire de la biologie, à faire de la physique.
Ou à apprendre.
Ou à apprendre, enfin, des choses.
Disons que j'ai peut-être eu la chance, quand on a fermé Lascaux, de pouvoir rester. Ravidal n'est pas resté parce que les problèmes ne l'intéressaient pas comme il m'intéressait, d'une part, et d'autre part surtout que c'est arrivé pour une raison très simple. Quand Lascaux a fermé, on s'est trouvé au chômage. On ne s'est pas occupé de savoir si on l'avait découverte ou pas, on est au chômage. C'était un gros problème. Parce que la grotte de Lascaux, quand elle était ouverte, il y avait énormément de monde et on gagnait bien notre vie. Et c'était très embêtant pour moi de me retrouver le bec dans l'eau. Bon. Ravida, lui, tout de suite, va se reconvertir, va travailler. Moi, on m'avait proposé d'aller rouler une brouette dans une usine. J'ai pas voulu y aller. J'ai dit, la grotte de Lascaux est fermée, c'est peut-être pas fermé pour longtemps, je vais voir. Entre-temps, M. de la Rochefoucauld, du fait qu'on avait fermé la grotte, décide de donner des projections ici, à cet endroit où nous sommes. Pour le public qui pourrait se présenter pendant l'été. Il convoque son personnel, tout le monde. Ravida, Marsal, le régisseur qui faisait office de caissier, et les suiveurs de visite qui accompagnaient les gens pour éviter qu'ils ne touchent les peintures. Il convoque son personnel en nous disant qu'il pourrait nous donner un SMIG, ça marcherait peut-être pendant 3 mois, mais qu'il n'y avait pas d'autre solution. Il demandait qui serait intéressé de présenter par projection, par diapositive, un commentaire de la grotte. Ça n'a intéressé personne. J'ai dit, moi, je vais essayer. Et moi, j'ai commencé à donner des projections. En juillet 63, on avait fermé en avril, et en juillet 63, je donnais des projections. Je passais ici, dans cette salle, qui était toute entière à ce moment-là, je passais jusqu'à 600 personnes par jour en projection, et je faisais du pourboire, parce que je commentais la grotte comme si j'étais dans la grotte, avec les clichés. Donc, je me suis fait une saison à peu près potable, puisque j'étais seul. Ce qui m'a permis de connaître les membres de la commission de sauvegarde qui venaient travailler à Lascaux. Du fait qu'ils venaient là, ils avaient bien besoin de moi parce que je connaissais bien la grotte. Mieux que n'importe qui, de ceux qui venaient. Alors ils avaient besoin de renseignements. Et quand les projections ont été terminées en septembre, je me suis adressé au président de la commission que je connaissais. Je suis allé le voir à Paris. Je suis allé voir M. de la Rochefoucauld à Paris. Il dit, c'est bien gentil, je suis resté fidèle, maintenant il faut trouver une solution. Je suis allé voir le président, comme je vous l'ai dit. À ce moment-là, monsieur le président de la commission scientifique de Lascaux, qui s'appelait monsieur de Ségogne, qui est un personnage important du coin, c'est lui qui était à l'origine de toute la restauration de Sarlat, d'ailleurs. Ouais. Monsieur de Ségogne, qui me connaissait très bien, à qui j'avais montré la grotte plusieurs fois et qui m'aimait bien, est intervenu auprès de la Caisse nationale des monuments historiques pour créer tout de suite un poste de gardien. Car il voulait mettre à ce moment-là un harki. Parce que c'était la période où il fallait les rapatrier d'Algérie et les harkis qu'il fallait caser quelque part. Alors ils avaient l'intention de mettre un harki. Et M. Le Ségouin a dit, en l'occurrence, on mettra le harki Marsal. Parce que je le connais et je tiens absolument à ce qu'il soit là.
Il est là, jour après jour. L'endroit où nous enregistrons, tout près de l'entrée de la grotte, est une sorte de salle des machines, celle de l'usine silencieuse qui protège Lascaux. Jacques en est le surveillant permanent et solitaire. Car il faut veiller sur ces lieux, interdits au public, comme sur un malade précieux. Disons maintenant un convalescent. La présence quotidienne des visiteurs avait, on le sait, modifié le microclimat de la grotte, altérant en partie les fresques des parois. La sauvegarde et la restauration posaient des problèmes physiques et biochimiques que les ingénieurs se sont attachés à résoudre mois après mois, année après année.
Devant les problèmes assez complexes de la conservation de Lascaux, une équipe a été créée ici sur place avec de jeunes ingénieurs scientifiques qui venaient ici faire leur temps de service militaire. Ces ingénieurs étant plus ou moins dirigés par les membres de la commission, chacun suivant leur spécialité. Et ce sont ces jeunes ingénieurs qui ont commencé à m'initier à toutes ces mesures scientifiques, à étalonner les thermomètres au centième, à faire des mesures de pression de vapeur, à faire tous ces travaux pour lesquels je suis employé à l'heure actuelle. Et ce sont ces jeunes ingénieurs, cette équipe sur place qui avait été créée par la commission, qui m'a initié à toutes ces choses-là. Et je vivais sur place. On a construit de grands baraquements métalliques et on vivait sur place avec les ingénieurs. Ma famille et tout le monde était là. Et ça a duré pendant tout le temps de retrouver l'équilibre de Lascaux. Les ingénieurs se sont succédés, les équipes se sont succédées et je suis toujours resté là. Maintenant, l'équilibre est rétabli. Je suis le seul qui m'occupe du côté climatologique de la grotte, des mesures de température, des mesures de pression de vapeur, de faire fonctionner la machine qui maintient l'équilibre, qui fait un rapport tous les mois aux membres de la commission sur l'évolution des différents paramètres et sur toutes les visites qui se passent. Et tout ce qui se passe à la grotte de Lascaux est noté jour par jour.
C'est un gros travail quotidien.
C'était un gros travail, ça devient un travail plutôt de routine seulement, c'est une astreinte. Tous les jours, je suis obligé de faire une mesure de climatologie qui va dans la grotte, qui prend environ une heure. Il y a la machine à s'occuper. Quand elle fonctionne et quand elle ne fonctionne pas, ça pose des problèmes. Il y a plein d'appareils qui fonctionnent dans la grotte que je dois faire fonctionner. Je dois faire un formolage régulier de toute la partie de l'entrée dans les anciens sas avec une solution de formol et un pulvérisateur. Je dois faire un nettoyage des allées et un arrosage au formol jusqu'à la porte de la grotte. Je dois accompagner les personnalités scientifiques ou culturelles. Je fais des visites pour ceux qui ont des laissés-passer. J'accompagne toutes les personnalités. Je tiens un cahier de bord. Ça fait quand même un certain travail.
Vous êtes jardinier, gardien, pilote?
Jardinier, c'est pas un bien grand parce que j'avais pas de culture. Mais non, disons que on est dans les bois, donc il faut tenir les allées propres pour pas introduire de germes dans la grotte. Mmh. C'est à ce titre-là que les allées sont propres. Parce que je dois les formuler au moins une fois par mois.
Mais à force de... Vous êtes rentré maintenant des milliers de fois.
Des milliers de fois.
Dans ces salles, vous ne les voyez plus?
Oh que si. C'est justement ce que je vous disais tout à l'heure. C'est que je les vois mieux qu'avant. Et je les aime de plus en plus. Et plus je regarde certaines peintures, plus je me dis que les hommes qui ont peint Lascaux étaient des artistes. Parce qu'il s'agit de voir Lascaux pour se rendre compte qu'il y avait peut-être des sorciers préhistoriques, qu'il y avait sans doute des chasseurs préhistoriques, mais qu'il y avait des artistes préhistoriques et qu'ils ne faisaient que ça. Parce que pour arriver à une telle maîtrise et une telle sûreté, il faut être un type de métier. C'est pas possible autrement. Voilà pourquoi je l'aime beaucoup plus qu'avant. Parce que de ça, on s'en rend compte petit à petit. C'est pas du jour au lendemain.
Ça veut dire que vos goûts ont changé? Je veux dire que vous préférez certaines choses à d'autres maintenant?
Maintenant, oui, je pense, oui.
Qu'est-ce que c'est que vous aimez le mieux?
Celui que j'ai... Il fait longtemps. Celui que j'ai toujours préféré, c'est le cheval chinois. Cheval jaune et noir. C'est peut-être l'animal que je préfère de la grotte. Avec une autre chose extraordinaire qui est le cheval pain à l'envers. Parce qu'il faut faire un cheval peint à l'envers de 2,50 m de long, sur une paroi tournante. L'artiste, quand il faisait la tête du cheval, il ne pouvait pas voir l'autre côté. Et le cheval n'a strictement aucun défaut. Il s'enroule complètement autour de cette sorte de pilier rocheux, qui n'était pas facile à peindre sur une calcite en chou-fleur, et il n'y a pas un défaut. Et bien ça, c'est dingue. Et plus j'y pense, plus je trouve que c'est fantastique.
Il y a, dites-moi si je me trompe, il est possible que je me trompe, mais vous parlez de l'utilisation de la paroi,
oui,
et de la difficulté de la paroi, oui, les deux. Il y a bien dans une des salles une vache enceinte, grosse, peinte, oui, et la grossesse est simulée par la proéminence même de la paroi.
Oui, c'est même mieux que ça. C'est une vache enceinte, mais dont la paroi n'est pas convexe, c'est la concavité qui donne la convexité. C'est ça qui est encore plus extraordinaire. C'est parce qu'elle est en creux, elle donne l'impression de plein, dans l'art de l'utilisation de la paroi.
Ça c'est
fantastique.
Grande intelligence.
Ça, c'était pas possible, c'est pour pas être n'importe qui. Les gens qui ont fait ça, c'était des artistes avec une sensibilité et un passé derrière eux, quelque chose d'important derrière eux qui les a amenés à ça. C'est pas l'homme préhistorique sorti de... c'est pas l'homme de Cro-Magnon qui brusquement s'est mis à faire ça. Hein. Il a fallu déjà quelque chose derrière. Ce sont des maîtres.
Au fond, ils sont assez proches de nous. Hein.
Vous savez, on pourrait dire quelquefois que c'est l'homo sapiens qui a peint Lascaux. Et nous sommes les homo sapiens, nous aussi. Et on pourrait dire que si le peintre de Lascaux passait devant, habillé comme nous, on lui dirait bonjour monsieur, et puis c'est tout. On ne ferait pas de différence. C'était des hommes comme nous. Sûr.
Vous dites le peintre, ils étaient plusieurs, certainement.
Ils pouvaient être plusieurs, mais pas forcément d'état. On ne jongle plus tellement avec les millénaires, on a plutôt l'impression maintenant que l'ensemble de la grotte aurait pu être presque réalisé par une équipe, avec un maître.
Sur quelques années?
Sur une génération, peut-être deux, mais guère plus. On pense plutôt que c'est une composition générale, que ça a été bien préparé, bien amené, et que ça n'a pas duré très longtemps.
Parce qu'il y a une conception homogène de l'ensemble.
D'abord, et puis il y a différentes choses. Il y a la raison première est que nous n'avons trouvé qu'une petite pellicule de dépôt laissée par les hommes. Ce qui tend à prouver qu'ils ne sont pas restés longtemps. Si l'on fait par comparaison avec les couches stratigraphiques des Eizi, où l'on voit sur plusieurs mètres d'épaisseur les différentes couches de dépôt laissées par les hommes. À Lascaux, on n'a trouvé qu'une pellicule. Donc, dès qu'on sonde en profondeur, le sol est vierge. Donc ils ne sont pas restés longtemps. C'est une des raisons. Peut-être la raison majeure. La deuxième raison, c'est qu'il s'agisse des grandes, grandes peintures. Qu'il s'agisse des animaux moyens. Des animaux peints et gravés. Et des petites gravures. La technique et la manière de faire est toujours la même. Qui laisse supposer presque comme une école. Et la dernière raison, c'est qu'il me paraît extraordinaire que des gens aient pu se succéder pendant des centaines et des centaines d'années pour finalement réaliser une composition générale qui paraît plutôt être l'œuvre d'un maître. Voilà les trois raisons qui me font dire, et qui font dire, pas à moi seulement, à beaucoup d'autres, que sans doute Lascaux est une chose assez spéciale et que ça n'a pas duré très longtemps.
Et ce qui est fascinant, c'est que Lascaux, depuis cette découverte, n'a pas cessé de vivre, je veux dire, de vivre, de souffrir, d'évoluer. Mmh. On l'a cru perdu,
oui,
on l'a récupéré, mmh, on l'a préservé. Mmh. Maintenant, elle est cloîtrée, en quelque sorte,
si on peut dire,
cette
oui,
grotte. Hein, vous êtes le gardien d'un lieu qui est redevenu presque vierge. Enfin,
c'est ça.
Il y a quelques
visiteurs.
Voilà,
le gardien d'un temple.
Voilà, le gardien d'un temple. Hein.
C'est ça.
C'est ça. Et en même temps, la science est passée là, à oui, regarder.
Oui.
La science s'est faite docteur de Lascaux. Mmh. Hein. Mmh. Les artistes ont regardé ça. Vous-même, vous avez l'homme que vous êtes aujourd'hui, qui a 55 ans. Mmh. Le Jacques Marsal de 55 ans aujourd'hui, gardien de Lascaux, serait un tout autre Jacques Marsal Si vous aviez, si vous n'étiez pas rentré dans ce trou-là un jour de septembre, il y a 40 ans.
Absolument, c'est certain. Absolument. Hein?
Donc, la grotte a évolué, elle a fait évoluer les gens.
En même temps, oui.
Qui se sont occupés d'elle, les techniques, la science. Mmh. Enfin, il y a une transformation permanente.
Exactement.
Et qui ne cesse pas.
Ben oui, c'est parce que nous réserve l'avenir.
À votre avis?
À mon avis, je crois que, dans le, vu les connaissances actuelles, il est pratiquement impossible de remettre à nouveau la grotte avec le public.
C'est fini.
Je crois que momentanément, pendant un certain nombre d'années, il n'en est plus question. La preuve, c'est qu'on est en train de réaliser une réplique de la grotte qui est faite pour le public, pour le tourisme. Mmh. Parce que la fermeture de Lascaux a posé des problèmes importants pour la région de Montignac, malgré tout. Mmh. Pas seulement à moi lorsqu'on m'a privé de cet emploi, mais pour tous les commerçants des environs, pour toute la région. Lascaux était un pôle d'attraction qui brusquement a cessé. Mmh. Du fait de la fermeture.
C'est une bonne chose, le facsimilé?
Je crois que le facsimilé est une chose qu'il faut faire de toute manière, et qu'il faudra faire. Parce que, quoi qu'il arrive, même si l'on trouvait, dans 10 ans, par exemple, une méthode de pouvoir laisser pénétrer les gens dans la grotte, de toute façon, la grotte de Lascaux, par sa capacité, ne permet pas une affluence extraordinaire. Les gens qui ont visité Lascaux quand Lascaux était ouvert ont eu des visites bâclées. J'étais le guide à l'époque, je sais très bien ce qui se passait. La plupart des gens qui ont payé leur entrée n'ont jamais su qu'il y avait de si belles gravures à Lascaux. Ils avaient vu les grandes peintures, mais les petites gravures qui sont extraordinaires, ils ne les ont jamais vues. Parce qu'on ne pouvait pas montrer de si belles petites gravures à des groupes de 20 personnes à la fois. C'était impensable, ce qui fait que la plupart des touristes ne savaient même pas qu'il y avait des gravures à Lascaux. Or, Lascaux n'est pas seulement la caverne la plus extraordinaire du monde pour ses peintures, elle l'est également pour ses gravures, car on a relevé près de 1500 gravures, et des gravures exceptionnelles, comme on n'a trouvé nulle part ailleurs. Oui. Ce qui fait que les gens ne les ont jamais vues. Je veux dire par là que, même si l'on trouvait une solution pour Lascaux immédiate, on serait coincé par le public. Quand Lascaux était ouvert en 1962, c'était permanent entre midi et 2 heures. Pour passer les 1500 à 1600 personnes qui passaient par jour, c'était pendant 9 heures d'ouverture. Il s'en présentait déjà 2500. Alors si l'on prend l'extension du tourisme depuis 1962, la publicité qu'a fait la fermeture, si Lascaux était ouvert actuellement, il se présenterait là plus de 2000 à 10 000 personnes par jour au mois d'août. Or, on n'a pu en passer que 15 à 1600 dans des conditions de visite épouvantables.
Alors, le problème resterait.
Le problème reste. Donc, le facsimilé est une solution d'avenir parce que, même si Lascaux était rouvert, il faudrait quand même que d'autres aillent dans le facsimilé. Ce sera quand même réservé à des personnalités.
Facsimilé, grandeur nature. Hein?
Grandeur nature, oui. Échelle 1 sur 1.
Bon, c'est une découverte phénoménale, Lascaux. Mais peut-être qu'il y a plein de Lascaux inconnus sous la terre par ici.
Peut-être, oui. C'est possible.
Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez?
Je ne crois pas qu'il y en ait beaucoup.
Non?
Non. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que même s'il y a eu d'autres Lascaux, la conservation de la grotte de Lascaux est un miracle. Est une série de miracles. Le premier grand miracle est un miracle géologique. Ce sont des calcaires crétacés supérieurs qui se sont formés à l'ère secondaire. Ce sont des calcaires compacts, peu perméables à l'eau, mais qui sont quand même, comme le calcaire, légèrement perméables. Dans ces calcaires, il y a une pellicule de marne qui est excessivement rare en géologie, ce qui fait que toute la pluie qui tombe actuellement sur la grotte peut traverser les bancs de calcaire, suit les fissurations naturelles et ne peut pas passer à cause de cette pellicule de marne qui conduit toutes ces masses d'eau à l'entrée. C'est ce qui avait créé ce point froid naturel. Premier miracle. Deuxième miracle, dans les deux parties principales de la grotte, il y a un fond de calcite. Un fond de calcite qui est un support merveilleux sur lequel l'homme a appliqué la peinture. Oui. Cette calcite se forme sous des conditions physico-chimiques favorables, comme je vous l'ai dit, je crois. Il a fallu donc que cette calcite se forme, que les hommes préhistoriques pénètrent, qu'ils voient cette merveilleuse grotte avec ce fond blanc. Ils ont peint sur cette calcite.
C'est ça qui leur a donné envie de peindre, peut-être.
Peut-être une des raisons. Ensuite, sous les mêmes conditions physico-chimiques, il s'est formé des graines de peinture sur la calcite et ça s'est miraculeusement arrêté. Ça fait le deuxième miracle. Le troisième étant l'entrée même de la grotte, qui par le fait était un bord de falaise qui s'était effondré, en formant un cône d'éboulis qui recevait des masses d'eau froide, et cette masse froide avait toujours naturellement régulé la grotte. C'est ça le troisième miracle. Écoutez, je ne veux pas être chauvin, bien sûr que j'aime la grotte de Lascaux, mais je connais Altamira en Espagne pour l'avoir vue dans de très très bonnes conditions et à plusieurs reprises. Je connais toutes les grottes de la région, toutes les grottes des Pyrénées. Sans chauvinisme aucun, il n'y en a pas une qui atteint la cheville de la grotte de Lascaux. On peut aimer les autres, il y a de très belles choses dans les autres, mais le spectacle de Lascaux, je ne l'ai jamais vu nulle part et il n'existe nulle part ailleurs.
Vous finirez votre vie ici ?
J'espère, oui. J'espère finir. On ne sait jamais, je ne crois pas. Je ne pense pas partir d'ici. Que voulez-vous que je fasse ? De toute façon, je ne suis pas ambitieux. Je n'ai pas besoin de... Qu'est-ce que vous voulez ? J'ai une maison ici. Cette maison servira pour d'autres gardiennes de la grotte, peut-être. Mais en attendant, j'y suis. Et puis, je ne pense pas qu'on pourra m'en sortir comme ça.
C'est une vie étrange, mais c'est une bonne vie.
Dans l'ensemble, oui. Maintenant, je suis bien content, finalement. Oui. C'est une bonne vie.
Quelle histoire.
Quelle aventure.
Nous tous, chacun... par Jean-Claude Brinquier.
Cette série de trois émissions a été diffusée les 29, 30 septembre et 1er octobre 1980. Vous pouvez les réécouter en ligne sur le site franceculture.fr à la rubrique « Les nuits de France Culture ».